CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Dans le mag du vendredi, on récapitule les actualités de la semaine.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là.
Le récap du lundi.
Karine Justo, nutritionniste diététicienne à Villefranche d'Orouergue, intervenante en goût et historienne.
Non, pas historienne.
Historienne du goût. Historienne des inventions de l'agroalimentaire.
Non, c'était juste une petite rubrique.
Oui, je sais, mais moi j'aime bien comme ça. De quoi avez-vous choisi de nous parler aujourd'hui, Karine?
Eh bien, de notre frigo.
Ah bah ouais,
parce
le frigo.
Aujourd'hui, vous voyez, je suis pas historienne, hein, mais aujourd'hui, de nos jours, en tous les cas, tout le monde a un petit frigo. Et puis c'est vrai qu'on entend tout un tas de choses sur les aliments qui doivent rester au frais, ceux qui ne le doivent pas. Enfin bref, on est toujours un petit peu perdu. Alors c'est pour ça que je voulais éclaircir un petit peu et revenir un petit peu sur ce que c'était que cette chaîne du froid.
La grande chaîne du froid.
C'est
ouais.
Ça. Et qu'est-ce qu'on risque surtout si on la rompt. Alors est-ce que vous savez, David, par exemple, qu'est-ce que c'est que cette chaîne du froid?
C'est de la transformation à l'emballage à notre frigo et toutes les étapes où le produit restait bien conditionné, à bonne température, j'imagine, non?
J'aurais pas pu dire beaucoup mieux.
Si, vous
non,
me flattez.
Non, c'est exactement ça. C'est respecter la chaîne du froid, en fait, ça veut dire d'essayer de maintenir les aliments réfrigérés, ceux qui doivent rester réfrigérés, à une température basse. En effet, vous avez raison. Et ce, de leur production à leur arrivée dans notre frigo. À la maison. Et c'est ça qui est souvent compliqué. Et quelle température dans l'idéal? Entre 0 et 4 degrés pour les produits les plus périssables, comme de la viande ou du poisson, et puis jusqu'à 8 degrés pour des produits, voyez, comme le beurre, hein, qui peuvent supporter d'être montés un petit peu en température.
Et les produits congelés, surgelés,
en dessous de 0, en effet. Donc c'est vrai que c'est parfois compliqué, notamment à la saison à laquelle on arrive. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette rubrique. C'est un petit peu compliqué de garder ces animaux au frais, notamment quand on va faire les courses. Mais il faut bien penser quand même que nous, consommateurs, quand on fait ces courses, on est le dernier acteur de la chaîne du froid. C'est-à-dire que les industriels ont pu conserver leurs produits jusqu'à ce qu'on les prenne dans leur frigo, mais ils ne sont pas responsables de ce qui va se passer après. C'est ça
et
le
encore
problème.
Encore des fois, si ça se trouve, il y a des petits soucis, on n'est pas toujours au courant.
Ça peut arriver, mais sachez quand même que les contrôles aujourd'hui à réception, notamment dans les grandes surfaces, sont quand même très légalisés. Hein. C'est la loi qui définit tout ça. Et là, c'est quand même de leur responsabilité. Donc, si un jour il y a un problème, c'est contre eux qu'on peut se retourner. Donc, quand même, pense que... Oui, mais c'est quelque chose... Si, c'est quelque chose qui est respecté. Enfin, de mon expérience, de ce que j'ai pu voir, c'est quand même respecté.
Votre rendez-vous bien-être vous est présenté par le magasin Au Bio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.
Aujourd'hui, tu nous parles de l'été, comment se préparer à l'été?
C'est-à-dire qu'on va parler d'un sujet douloureux aujourd'hui, c'est le sujet de la minceur.
Ouais, voilà. Le sujet un peu féminin.
Ouais, c'est un sujet un peu douloureux parce qu'on n'est pas tous égaux, n'est-ce pas, mon cher David?
Auditeurs
en conviendront, on n'est pas tous égaux, voilà. Donc, je vais pas parler de 36 000 régimes mis au point par des diététiciens, voilà, connus, qui nous dispensent de leurs conseils, qui sont
parfois
bons.
T'as des copains.
J'ai des copains. Mais on va parler plutôt des moyens naturels qu'on peut utiliser pour favoriser en fait la perte de poids. Alors, vous savez que j'ai une passion toute particulière pour la gémothérapie.
Oui.
Donc, on va attaquer avec, je vais dire, mon petit chouchou. Ça va être le programme, en fait, minceur de Cherbalgem avec, en entrée, de la sève de bouleau. Donc, la sève de bouleau qui va faire le nettoyage de tout l'organisme. Voilà. En fait, ça va être le gros... Le plus gros du boulot qui va être fait avec la sève de bouleau sur 3 semaines, on va activer son foie, son intestin, ses reins, on va aller faire pipi, voilà, on va faire le nettoyage.
Il y a la tisane d'aubier aussi que tu nous avais conseillé.
L'aubier de tilleul,
celle qui fait faire des morceaux à la sortie. Je me rappelle bien de ça.
Ouais. Donc la sève de bouleau qui en plus enrichit en bourgeon de bouleau, donc pour une action encore plus renforcée, et puis du cassis qui est aussi un diurétique, un tonique et qui renforce l'action des autres bourgeons qui lui sont associés. Donc ça, on fait ça pendant 3 semaines, et ça c'est valable pour tout le monde, même pas ceux qui ont besoin de perdre du poids, mais on va dire que ça va être le gros du boulot qui va... C'est un dégrossissage. Je sais pas si les mots sont très judicieux, mais voilà. C'est une représentation en tout cas. Et ensuite, on peut, pour les personnes qui veulent aller vraiment chercher les déchets incrustés, parce que finalement, je parle de perte de poids, je parle de la cellulite là d'entrée de jeu, mais la cellulite c'est quoi? En fait c'est un noyau graisseux et puis en fait ce sont des toxines et de l'eau qui sont prisonnières. Il y a des personnes qui ont de la cellulite, d'autres pas, voilà. En particulier ce sont les femmes, donc là c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui est à conseiller aux femmes. Donc le cellusève, donc ça va être de la sève de bouleau, mais qui va être enrichi avec le bourgeon de châtaignier. Le bourgeon de châtaignier, il a un usage très intéressant, c'est qu'il est anti-œdémateux. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont tendance à gonfler des jambes, par exemple, ou à faire de l'œdème, à retenir l'eau, en fait, lui, il va favoriser, en fait, vraiment la décongestion des tissus. On va pouvoir chasser l'eau du corps. Donc, il va y avoir une action, donc, sur, forcément, la cellulite, la perte, donc, de volume, en fait.
Ah, c'est la fin.
Mais vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Delphine sur le cfmradio.fr, rubrique bien-être au bio, nature et vie.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays, CFM.
Salut. Oui. J'arrive le matin au bistrot du coin. Je m'installe sagement, l'âme sans tourment. J'ai plein de trucs à faire qui pourraient me rendre fier. Je commande un café pour me réveiller. Je brûle une cigarette, mais bientôt j'arrête. Je me frotte les mains, c'est maintenant, demain. Je vais pouvoir me construire un bel avenir. Mais là, je sais pas ce qui se passe. Je commande un verre, son petit frère. Un pour la route, un pour le retour. M'accroche au bar, c'est là qu'on se marre. Je parle d'amour à des gens sourds. Arrive le soir, je peux plus boire. Me suis vautré. Encore raté. J'y peux rien, c'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde. J'y peux rien, c'est mon côté punk. C'est la vie en vis qui se fout, mon avis. Pourtant dans mon ventre aujourd'hui je rencontre. J'ai la tête en fleurs, elle me voit, elle meurt. D'amour va sans dire, pour elle je peux mourir. On s'accroche les yeux, puis on fait des vœux. Nous deux ça sera grand, moi jamais je mens. Confonds-toi en moi, je suis fondu de toi. Mon petit canari, je t'emmène à Paris. Mais là je sais pas ce qui se passe car sur la route je m'en croûte pour que quand même je vois pas la peine. Elle est trop bonne, elle doit être conne. J'ouvre la portière, puis au derrière ma petite amie est embouillie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je l'aimais. J'veux rien, c'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde. J'y peux rien, hein, c'est mon côté punk. J'ai la vie en vis qui se fout de mon avis. J'suis toujours à faire des choses, le contraire. Je sais pas ce qui se passe, je dois être à la masse. Bon vouloir se meurt, monsieur le docteur. Et vous allez m'aider, j'aurais vous payé. Je veux qu'une seule chose, c'est que ma tête se repose. J'suis plutôt dans le fond, un gentil garçon. Moi je veux y parvenir à mon bel avenir. Mais là, je sais pas ce qui se passe, ça sert à rien, dit le médecin, c'est chez vos larmes. Moi, j'ai cette arme, voyez les balles, ça peut faire mal, la croix à tête, qui en fait une tête, la main à terre, sa gueule à terre, il est mal barré.
Je le dirai.
J'y peux rien, c'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde. J'y peux rien, c'est mon côté punk. J'ai la vie en vis qui se fout de mon avis.
CFM à Villefranche, 90.2, 90.2.
Ne vous inquiétez pas, ça repart.
Avec le récapitulatif du mag de ce mardi.
Les haut-parleurs.
Deuxième épisode de ce micro-trottoir. Petit rappel du dernier épisode avec Noémie et Lilou en cuisine.
Oui, c'était Noémie et Lilou en cuisine qui nous avaient préparé un repas typiquement vietnamien.
Mmh, c'est ça.
Et voilà, et ça a bien plu. Il y a plein de gens qui ont mangé même sur leurs genoux dehors parce que voilà, des fois on manque un peu de place et quand tout le monde arrive en même temps, mais tout le monde s'est régalé.
De la cuisine à la terrasse.
Ouais. C'est délicieux. Oui. J'avais très faim, donc de toute façon, mais c'est toujours délicieux, et ça encore plus.
Et tu es amatrice de cuisine asiatique.
Oui, j'aime beaucoup la cuisine asiatique, voilà. Mais je suis jalouse parce que mes copains ils m'ont dit qu'ils avaient eu des plus grandes assiettes que moi.
Oui, mais toi, t'es petite, alors on fait proportionnellement.
Voilà.
Et messieurs, dames,
alors
vous
moi,
avez
c'est la première fois que je viens ici.
Ah. Intéressant.
Et j'ai la chance donc d'avoir un plat végétarien, donc ça me convient tout à fait. J'ai bien mangé, ni trop ni pas assez.
Vous êtes végétarien, donc oui. Vous mangez toujours végétarien. Voilà, et c'est vrai
je
que
suis pas
c'est
un ayatollah du végétarien, oui. Mais quand je peux manger végétarien, j'en profite.
D'accord. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident dans les restaurants à Villefranche de trouver un plat végétarien.
Oui, c'est pas facile, oui. Il y a des restaurants de toutes les nationalités, mais végétariens non pas encore.
C'est vrai, et c'est aussi une remarque qu'on s'est faite ici. Donc on propose toujours une variante pour les végétariens, toujours. Voilà. Madame, vos impressions ?
Alors moi, j'aime beaucoup venir manger ici. Déjà l'ambiance, tout le monde est sympa. Et chaque fois qu'on fait le marché le jeudi, c'est mon petit plaisir de venir manger au parleur. Et la cuisine est toujours délicieuse, servie avec le sourire. Et là, aujourd'hui, le plat vietnamien, franchement, aussi végétarien, ce que j'apprécie énormément. Et avec toutes ces choses, c'était vraiment copieux, varié. Donc voilà, on peut dire que je suis vraiment satisfaite.
Et c'est sûr que ça fait du bien d'avoir un endroit où on peut changer un peu, parce que bon, la Ligos aussi, c'est bien, mais il y a autre chose. Ça fait un peu
Oui, dans l'Aveyron, il y a autre chose aussi. Hein.
C'est pas parce que tu les as choisis, tout le monde repart heureux des repas du jeudi.
Après, c'est vrai que c'était ma première expérience. Il y a très longtemps que j'avais envie d'interviewer les gens et je pense que je le referai dans d'autres situations.
En studio, Jean-Paul Aquier, président du comité des fêtes de Villefranche. Manon Lacassagne, bonjour Manon.
Bonjour.
Accompagnée de Christelle Cavalier, de Chrysalide Création. Des filles aujourd'hui en studio pour nous parler de la reine de Villefranche, la reine du Villefranchois, élection, retour de cette élection qui, j'ai cru comprendre, avait un petit passé. Et Jean-Paul Aquier avait pour mission de nous retrouver quelle était la dernière reine élue à Villefranche de Rouergue, après avoir retourné toutes les archives de Villefranche, du Villefranchois, de la Dépêche, du Centre Presse et les archives municipales. Jean-Paul a un nom qu'il va nous livrer aujourd'hui.
Voilà, j'ai eu l'info il n'y a pas très longtemps, il y a deux heures peut-être. C'est une élection qui avait eu lieu en 1978, mais je pense que c'est, il y a date des plus récentes, la reine s'appelait Jocelyne Assier, et la première dauphine était Cathy Maravel.
Elles seront là ce vendredi.
On va essayer, quoi. Je sais pas, on va essayer de les contacter, je sais pas du tout. Je pense que Cathy Maravel s'appelle toujours Cathy Maravel.
Ouais.
Par contre, Jocelyne Assier, je pense qu'elle a dû changer de nom.
On est dans l'élection de la reine du Villefranchois. C'est ce vendredi 29 mai à la salle des fêtes de Trespierre. Droit d'entrée 5 euros. 8 candidates que l'on a croisées ici dans ces studios. Et on va découvrir leur candidature tout au long de notre causerie. Christelle, on en est où là à quelques jours du coup d'envoi de cette élection? On en est où là? Ça va? Tout va bien? Parce que toi, t'as une partie quand même importante. Hein,
qui oui, est tout ce ça qui est... va. On a tous nos partenaires. Ouais. On a calé tout ce qui est rendez-vous coiffure, maquillage pour les candidates. Mm-hmm. Moi, elles sont en train de venir à la boutique pour faire tout ce qui est essayage pour les fameuses robes de soirée, pour le passage en tenue de soirée.
Alors tu votes pour qui? C'est qui la plus belle? Non, on n'a pas le droit de le dire.
Elles sont toutes très belles. Ah, donc voilà, je pense que le jury et le public auront beaucoup de difficultés à choisir. Hein. Moi, je les choisirais toutes si c'était que moi. Mais bon, il faudra faire un choix. Hein.
On pourra parler du jury d'ailleurs. Hein, et qui compose ce jury pour le retour de la reine du Villefranchois? Je te laisse terminer, pardon.
Donc oui, enfin j'avais fini. D'accord. Et au niveau du jury, on a en tête d'affiche et président d'honneur Quentin Bourdi. Puis ensuite, on a Manon, qui va être dans le jury. On a Monsieur Tranier. Ensuite, on a Stéphanie Bayol. Voilà. Et quelqu'un aussi du comité des fêtes. Je pense que c'est Jean-Paul.
Eh ben oui, voilà. Le président.
Ouais,
du
coup, j'ai jamais fait ça. Il faut une première.
Il est toujours dans les bons coups, Jean-Paul.
Ah, t'as remarqué, hein.
Il remettra pas la coupe, promis. Il a compris que c'était le diadème. Hein.
Oui.
Coq-à-l'âne.
On est déjà mercredi dans le récapitulatif de la semaine.
La recyclerie ressourcerie du Rouergue installée zone des gravats. C'est un rendez-vous hebdo également sur notre antenne intitulé Le Recyclomètre. Aujourd'hui, Philippe Roux qui est président, elle présidente de la recyclerie ressourcerie, accompagnée de Yolaine qui est conseillère en insertion, et de Nathalie et Christelle, invitées pour nous parler de cette journée nature. C'est un coup de projecteur de la région Midi-Pyrénées, ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai pas tous les détails. C'est Christelle et Nathalie, en tout cas, qui ont travaillé sur ce projet dont on va parler dans un instant. Peut-être pour commencer, rappeler un petit peu ce qu'est une recyclerie, ressourcerie installée pour nous à Villefranche-de-Rouergue, zone des Gravasses. Philippe.
Oui, bonjour David. La recyclerie du Rouergue est un chantier d'insertion. C'est une structure qui a comme objectif d'aider les gens à trouver ou à retrouver un emploi. Comme tout chantier d'insertion, elle a deux outils, un accompagnement personnalisé et ensuite une mise en situation de travail rémunérée. Et donc, il faut une activité économique et c'est l'activité économique d'une recyclerie-ressourcerie que nous avons choisie. Qu'est-ce que c'est qu'une ressourcerie ? C'est un moyen de récupérer absolument tout ce qu'on peut récupérer, dont en général les gens se défont. On essaie de le récupérer avant que ça soit jeté, évidemment. Et l'objectif est de donner une seconde vie à ces objets, voire même à ces matériaux. Tout ce que l'on peut démonter, on le démonte et on peut le revendre sous forme de matières premières, du fer, du cuivre, du plastique, etc. Mais l'objectif est surtout, dans la mesure du possible, de réparer, de remettre en état, de relooker parfois, des objets qui peuvent avoir soit une seconde vie en tant qu'objet c'est-à-dire lui redonner la possibilité d'être réutilisé avec la fonction qu'il avait avant, soit voir le détourner et détourner son utilisation, le relooker, en faire un objet de décoration ou un objet utilitaire, mais qui n'avait rien à voir avec le début. Alors ça a un double intérêt. Le premier, j'en ai parlé, c'est de l'insertion par l'activité économique, mais le deuxième, évidemment, c'est un intérêt énorme en termes d'écologie, puisque ce sont plusieurs dizaines de tonnes chaque année de choses qui devraient finir enterrées plus ou moins bien sous la nature et qui finissent par être réemployées. Et c'est tout autant de gagner pour notre pauvre petite nature.
On parle de kilos, de tonnes de réemploi. Hein. On ne parle pas en objet. Et c'est votre valeur à vous, hein, le kilo.
Oui, tout à fait. Oui, c'est important. Et puis, il faut savoir aussi qu'on est, quoi qu'il en soit, dans un monde où il y a aussi une grande partie d'industrie qui se greffe dessus, avec les éco-organismes, avec tout un tas de valeurs comptables qui se rajoutent maintenant à ce qui, au départ, était une nécessité humaine et écologique. Et donc, on est obligé aussi d'acquérir une partie de leur vocabulaire.
Une caverne d'Ali Baba, hein, la recyclerie-ressourcerie, il y a toujours des objets atypiques qui arrivent là. On voyage hein, à la recyclerie quand on déambule un peu dans le hangar, à droite, à gauche. Et puis, un espace, moi je peux le constater à chaque fois qu'on se rencontre pour faire ces petits enregistrements, un espace révélateur de talent. Je parle de Nathalie, de Christelle, qu'on a aujourd'hui en studio, et puis d'autres. Bien souvent, on sent qu'il y a une fibre artistique. J'ai cru vous croiser dans l'atelier bois, les filles, et puis j'ai cru voir une magnifique porte avec une fresque et un trompe-l'œil. Je crois que c'est toi, Christelle. Oui. Voilà, c'est une chronique qu'on a prévu de diffuser très prochainement. Et c'est Gilles qui présente cette porte qui est vraiment bravo pour ce boulot. Et puis bravo pour le travail effectué autour de l'action palette. Je sais pas, il y a un nom, mais on peut peut-être donner la parole à Yolène pour déjà un petit mot. Yolène, 2 ans à la recyclerie ressourcerie du Rouergue. C'est l'épanouissement total, hein.
L'épanouissement total, oui, on peut dire. Oui, professionnel et personnel, si, c'est très bien, parce qu'en fait, la chance que j'ai en travaillant à la recyclerie, c'est travailler avec l'humain, qui est un peu ma motivation, j'aime bien cette partie-là, et puis aussi travailler pour l'environnement. Voilà, on a l'impression de faire 2 choses bien en même temps. Et puis c'est surtout que c'est vraiment une petite entreprise à taille humaine. Et puis, comme vous l'avez dit, David, on travaille avec les compétences et les savoir-faire, savoir-être de chaque personne. Et donc Nathalie et Christelle sont tout d'abord, comme tous les autres salariés de la recyclerie, des salariés polyvalents. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir pouvoir manutentionner, nettoyer, vendre, et aussi donc réemployer. Donc pour le réemploi, on a aussi la partie atelier test. On va tester plutôt les D3E, comme on dit, c'est les déchets électriques, électroménagers. En fait, ça s'appelle déchets, mais en fait, la plupart du temps, on peut les recycler. C'est-à-dire que souvent, une personne qui va changer une gazinière va peut-être penser à la recyclerie pour la recycler et s'en acheter une neuve. Nous, s'il suffit de changer un brûleur ou un bouton, avec ce genre de choses, on récupère un objet à vendre, prêt à vendre, qui est passé par le petit atelier test.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays, CFM.
Du sel sur les lèvres, les yeux qui portent loin, une assemblée de gueules et les mains dans des mains.
Les valises de courage moquent nos souvenirs. Un souffle d'air devant chante, il faut en finir. C'est la bande à timide qui s'embrasse les joues, se claque dans le dos en disant qui êtes-vous. Nos amours sont toutes là, à repousser les rues. Nos doutes aussi, j'ai vu les casseroles de nos culs. On conjugue sa frousse au sourire du voisin, et nos yeux piquent un peu, paraît que c'est pour demain. Les amis, ce soir on met les bouts, on l'a juré 100 fois. J'ai la marche d'un roi, si je marche avec vous, j'ai le rire d'un fou. Quand on marie nos voix, je suis fier de moi, quand j'ai besoin de nous. Le joli bruit, le monde, qui gronde d'impatience. On chauffe les semelles en tapant la cadence. C'est pas qu'on se ressemble, mais on est tous très beaux. Quand au pied des falaises, on tresse des bateaux. Alors on se découvre, on s'invente des noms qui veulent dire bienvenue, oh, tout le monde sur le pont. Les grands portent les petits qui sifflent une chanson de lutte, ou raniment en riant les 100 fois, les 100 buts. Y'a la tête au soleil qui fracasse le lointain, et nos yeux piquent un peu, ça y est, on est demain. Les amis, ce soir on met les bouts, on l'a juré 100 fois. J'ai la marche d'un roi, si je marche avec vous, j'ai le rire d'un fou. Quand on marie nos voix, je suis fier de moi, quand j'ai besoin de nous.
CFM à Villefranche, 90.2, 90.2.
On ne finit pas les phrases, hein.
Jeudi, et je disais hier aussi, dans le mag, on entendait ceci.
Pierre et Claude Buraglio, bonjour, merci d'être là. On déambule dans cet espace qu'est l'Atelier Blanc, où vous nous faites le plaisir eh bien, de nous confier vos œuvres jusqu'au 28 juin. Je vous rappelle que vous pouvez venir du jeudi au dimanche de 14h à 19h. Vous poussez la porte, vous n'hésitez pas, c'est grand ouvert, on vous y attend. Justement donc pour découvrir cette exposition en tandem avec Claude. Merci Claude.
Oui, bonjour.
Et tout de suite à ma gauche, Pierre.
Bonjour.
Donc on est là au rez-de-chaussée, autour de vos œuvres, là un volume de Claude, et puis des surfaces, on va dire, plus traditionnelles, enfin au niveau de l'accrochage au mur, pour Pierre. Tout d'abord, peut-être, est-ce qu'on peut prendre le temps de revenir individuellement sur votre parcours à chacun ? On commence par Pierre, me fait signe Claude.
Oui, avec plaisir. Oui, mon parcours, oui, ça fait une cinquantaine d'années que je travaille. J'ai été élève de l'école des Beaux-Arts dans les années 60, et par la suite professeur aux Beaux-Arts de Paris. Et disons, j'ai une pratique qui est reflétée d'ailleurs par cette petite exposition, une pratique de peinture, de dessin, d'imprimer, c'est-à-dire d'estampes, et ce qui n'apparaît pas ici aussi, de réalisation monumentale. Voilà, et c'est une pratique quasiment ininterrompue avec la chance d'être montré assez souvent en France et à l'étranger. Voilà les grandes lignes.
Oui, alors vous dites petite exposition, mais pour la surface du lieu, parce que c'est grande ça. Exposition, parce que quand même on a le plaisir de pouvoir avoir en quelque sorte une rétrospective de votre travail, puisqu'on a l'opportunité de découvrir des œuvres quand même plus anciennes, quand vous étiez jeune plasticien, et donc vous cherchiez encore un peu...
Je cherche toujours.
Toujours, vous cherchez encore. Donc un travail dense, sur donc une quarantaine, cinquantaine d'années.
Oui, l'œuvre la plus ancienne, enfin une gouache qui est au premier étage, elle est de 63, donc c'est même un an avant que naisse Claude.
Avec Claude, il y a quelques jours, on faisait l'accrochage. Et par rapport à Pierre, donc ton père, tu accrochais les œuvres, c'est pas évident, on se le confiait. C'est vrai que c'est tout un questionnement pour faire dialoguer les œuvres, que ce soit fluide. Et finalement, une fois tout accroché, tu me confiais qu'il y avait une cohérence dans le tout. Finalement, on s'aperçoit qu'entre les œuvres de 1963 et les œuvres de 2015, il y a un lien, c'est flagrant à l'œil, donc n'hésitez pas à venir.
Je ne sais pas si c'est flagrant, tout autant on se rend compte que c'est quelqu'un qui est parti d'un point A pour arriver éventuellement à un point B, mais il y a une espèce de fil conducteur qui se lie. c'est parfois pas évident, c'est pas évident immédiatement à la lecture, mais c'est vraiment quelqu'un qui s'interroge sur quelque chose d'assez précis. Alors dans la pièce où on est ici, il s'agit essentiellement donc d'estampes qui sont sur du papier, ce qu'on appelle armé. C'est du papier comme du craft armé et qui donne comme ça une espèce de densité. C'est de la lithographie, lithos, pierre. On dit maintenant, bon, lithographie, on le fait souvent sur zinc, mais là, c'est vraiment la lithographie à l'ancienne. Alors, je pense que celle-ci est de chez Bordas. Et donc, qui est une série de cartes postales tirées au noir, hein, vraiment. Quand on dit tirées au noir, c'est-à-dire qu'il y a un grand aplat noir. Dans la continuité, il y a donc deux œuvres côte à côte. Un diptyque qui est un poème de Dominique Fourcade avec qui Pierre Buradio a travaillé pendant quelques années et aussi sur un papier qui fait écho à celui qui est juste avant.
Pas de fin, pas de commencement, ni commencement ni fin, et c'est parce que je voulais pas qu'il y ait de fin.
CFM, le mag, tous les jours,
12h30,
la vie du Villefranchois.